En votre compagnie, Idrissa Sedoudia, pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, bonjour. Au Nigeria, 5 humanitaires nigérians, dont un employé de l'ONG française Action contre la faim, ont été tués par les djihadistes qui les avaient enlevés dans le nord-est du pays, en proie au conflit contre Boko Haram, a indiqué hier l'ONG. De son côté, l'International Rescue Committee a confirmé la mort d'un de ses employés. Des combattants affiliés au groupe État islamique en Afrique de l'Ouest avaient auparavant mis en ligne une vidéo montrant l'assassinat des 5 hommes. En République démocratique du Congo, des combats ont opposé dans l'Est l'armée régulière et des rebelles du M23, un groupe armé qui n'avait pas fait parler de lui depuis 2017. Nous y reviendrons dans un instant. Une information judiciaire a été ouverte à la suite de la tentative d'assassinat d'un opposant congolais en France, relançant ainsi une enquête d'abord classée sans suite. Ferdinand Mbaou a été la cible fin 2015 d'une tentative d'assassinat près de son domicile dans le Val d'Oise, au nord de Paris. Grièvement blessé, il vit depuis avec une balle logée dans le dos. 5 chefs d'État ouest-africains vont tenter ce jeudi à Bamako de dénouer la crise sociopolitique qui secoue le Mali depuis juin, en réconciliant le président Ibrahim Boubacar Keïta et une opposition qui réclame son départ. Nous y reviendrons également dans un instant avec Kassim Traoré. En Afrique, où l'OMS s'inquiète de l'accélération de l'épidémie de coronavirus, la barre des 15 000 morts a été franchie, soit 15 765 morts pour 753 124 cas. Le Burkina Faso, 1070 cas, dont 53 décès, va rouvrir le 1er août ses frontières aériennes, fermées depuis 3 mois en attendant la réouverture des frontières terrestres, en harmonisation avec les autres pays d'Afrique de l'Ouest, a annoncé mercredi le gouvernement. Le Niger voisin va rouvrir ses frontières aériennes le 1er août également, tandis que la Côte d'Ivoire les a déjà rouvertes le 1er juillet et le Sénégal le 15 juillet. Quelques 572 personnes sont décédées du coronavirus ces dernières 24 heures en Afrique du Sud, un niveau record en une journée qui porte le bilan total à 5940, a indiqué hier le ministère de la Santé. L'Afrique du Sud est le pays le plus affecté du continent avec 394 948 cas à ce stade. Plus de 15 millions de cas ont été officiellement recensés dans le monde, dont plus de la moitié aux États-Unis et en Amérique latine selon l'AFP. Depuis une semaine, plus de 230 000 cas sont annoncés quotidiennement en moyenne. Au total, la pandémie a fait depuis fin décembre au moins 617 603 morts dans le monde. Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 142 942 décès. L'Amérique latine et les Caraïbes ont atteint 4 millions de cas, dont la moitié au Brésil. Et le Moyen-Orient a passé le million de cas, dont 23 929 morts. Ici à Washington, la Chambre des représentants a voté hier par 305 voix contre 113 le retrait du Capitole, son siège, de toutes les statues de personnes ayant choisi de servir les États confédérés d'Amérique. Cette mesure doit encore être approuvée par le Sénat et le président Donald Trump. Pendant la guerre de sécession de 1861 à 1865, ces États sudistes se battaient pour conserver l'esclavage aboli dans le reste du pays. Les États-Unis sont engagés dans une remise en question généralisée de leur passé esclavagiste depuis la mort de George Floyd. Fin mai, et la pression autour des monuments confédérés ne fait que monter. Le président Donald Trump a annoncé hier envoyer 200 agents fédéraux à Chicago après une résurgence de la violence dans la troisième ville des États-Unis. En aucun cas, je ne laisserai les soldats de Donald Trump venir à Chicago et terroriser nos habitants, a tuté la maire de la ville. La suite de nos informations. Au Mali, 5 chefs d'État ouest-africains sont attendus ce matin à Bamako. Pendant leur mission de 24 heures, ils doivent tenter de décrisper la situation sociopolitique du pays. La délégation présidentielle est composée d'Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, Macky Sall du Sénégal, Mahamadou Issoufou du Niger, Nana Akufo-Addo du Ghana et Mohamedou Buhari du Nigeria. Cette mission arrive à Bamako après l'échec d'une première tentative de médiation de la CEDEAO, dirigée par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan. Le point avec Kassim Traoré.
Pour certains, il s'agit d'une mission de haut niveau. Pour d'autres, c'est une mission de la dernière chance. Ces 5 chefs d'État de la CEDEAO se déplacent à Bamako après 2 missions de conciliation dont l'une a été dirigée par l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan. Nous avons rencontré les M5-RFP 4 fois et nous n'avons pu rapprocher nos divergences, a déclaré Goodluck Jonathan lors d'une conférence de presse de fin de mission. Le mouvement M5, qui canalise les mécontents multiples, a exprimé son désaccord aux recommandations apportées par l'organisation sous-régionale. La CEDEAO ne doit pas être un instrument de protection des chefs d'État, a dit Shogel Kokala Maïga, membre du M5-RFP, au sorti des discussions. C'est donc dans ce contexte de rapports tendus entre les parties que les 5 chefs d'État de la CEDEAO arrivent au Mali. Parviendront-ils à harmoniser les positions? Difficile d'en dire plus. Mais pour certains observateurs, la mission de médiation des chefs d'État dépêchée par la CEDEAO pourrait être la bonne. Selon eux, ces émissaires ont une expérience politique qui leur permettra de faire face à ce genre de crise. Le docteur Mamadou Guisse, politologue, estime aussi qu'entre homologues, ils peuvent se permettre de dire certaines vérités. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les rebelles du M23 ont refait surface. Après quelques 3 années d'éclipse, ils ont eu des combats meurtriers avec l'armée régulière dans le territoire de Rutshuru dans le Nord Kivu. Le point avec Eddie Isango.
L'information est donnée par la société civile. D'intenses combats à l'arme lourde et légère ont opposé les rebelles du M23 aux militaires des forces armées dans cette région à la lisière du parc national des Virunga. Les rebelles ont attaqué une position de l'armée et tué 3 soldats. L'attaque a eu lieu 3 jours après que le président du M23, Bertrand Bissimwa, a demandé au gouvernement de Félix Tshisekedi d'accélérer les processus de rapatriement des combattants M23 qui s'étaient trouve au Rwanda et en Ouganda. Il a prévenu qu'un retard donnerait des prétextes à ceux qui exploitent la situation depuis les règnes de Joseph Kabila. Pour Bertrand Bissimwa, ces combattants ne posent pas d'actes qui menacent la sécurité du pays. Le M23, constitué à majorité des Tutsis, est soutenu par le Rwanda. Ces mouvements rebelles s'étaient emparés des Goma, capitale du Nord Kivu, en 2013, avant d'être battus en 2014. Certains combattants s'étaient réfugiés dans les pays voisins. Le patron du M23 affirme que la plupart de ses combattants sont sur le sol congolais et ne posent aucune menace à la sécurité nationale.
Nouvelle confrontation entre Washington et Pékin. C'est l'escalade après la fermeture du consulat de Chine à Houston dans le Texas, dans le sud des États-Unis. Eric Manirakiza.
La diplomatie américaine a invoqué la protection de la propriété intellectuelle pour ordonner la fermeture du consulat chinois à Houston, au Texas. Houston est d'ailleurs un des plus grands pôles de la recherche biologique et médicale dans le monde, selon le sénateur Marco Rubio, président de la commission du renseignement. Cette mission diplomatique est le cœur d'un vaste réseau d'espions. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a relevé que sa décision intervient dans la foulée de l'inculpation par la justice américaine de 2 Chinois soupçonnés d'avoir mené des cyberattaques contre des entreprises impliquées dans la recherche d'un vaccin contre le coronavirus. Washington, qui a déjà accusé Pékin de manque de transparence sur le coronavirus, affirme que Pékin tente de pirater la recherche sur un vaccin, objet d'une compétition féroce entre laboratoires pharmaceutiques et les puissances mondiales.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibault.
Soudan, le gouvernement a annoncé qu'il allait devoir dévaluer sa monnaie en raison de l'énorme déficit dans le budget de l'État, causé en grande partie par l'arrêt de l'activité économique à cause du coronavirus. Les revenus de l'État ont baissé de 40% au premier semestre 2020 et le taux d'inflation a atteint 136% sur un an, aggravant les difficultés économiques qui avait suscité les révoltes populaires et la chute du président Omar el-Béchir. Air France prévoit de desservir près de 170 destinations à la fin de cette année 2020, soit 85% de son réseau habituel. Selon Financial Afrique, l'Afrique est concernée par cette reprise avec 32 destinations programmées entre septembre et octobre, incluant entre autres Abidjan, Douala, Abuja ou encore Kinshasa. Cette possible reprise est programmée avec des mesures contre le Covid-19, comme le port obligatoire du masque sur l'ensemble de ses vols ou encore le contrôle de température au départ. Le gouvernement américain va payer 1,95 milliard de dollars à deux laboratoires pour obtenir 100 millions de doses d'un potentiel vaccin contre le coronavirus. Washington a passé une commande initiale et pourrait acquérir jusqu'à 500 millions de doses additionnelles. La biotech allemande BioNTech et le laboratoire américain Pfizer développent un projet de vaccin qui est entré dans une phase d'essai clinique après des premiers résultats encourageants.
Les sports à présent avec Yabo Draogo.
Bonjour à tous. Rebondissement dans la course à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. La fédération ne reconnaît pas le parrainage accordé à Didier Drogba par un groupe d'arbitres dissidents de l'Amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire, soutenu lundi par quelques membres des arbitres. La star ivoirienne a effectivement reçu son parrainage mardi dans son QG, invité à la chaîne de télévision La 3, Zito Claude, directeur exécutif adjoint de la fédération, via un communiqué a fait savoir que l'instance fêtière est contre la décision prise par les arbitres dissidents, celle de parrainer la candidature de Drogba. Selon ce communiqué, la FIFA ne reconnaît que Souleymane Koulibaly qui a parrainé Sori Diabaté comme étant le président de l'Amicale des arbitres de football de la Côte d'Ivoire. Ce dernier a été élu en 2018 pour un mandat de 4 ans en présence de Danon Roland, qui s'autoproclame aujourd'hui responsable de l'association par intérim. Et puis, je vous propose un point sur les championnats africains de football. Plusieurs championnats majeurs sont sur le point de reprendre, à commencer par celui du Maroc lundi prochain, qui sera suivi de ceux de Tunisie le 2 août et d'Égypte le 6 août. Sur fond de poursuite de la pandémie du nouveau coronavirus, au Maroc, le Wydad Casablanca, champion en titre, menait la danse au moment de l'arrêt de son championnat. En Tunisie, l'Espérance Tunis, quadruple championne d'Afrique, compte 44 points, soit 10 longueurs d'avance sur le CS Sfaxien à 10 matchs de la fin. En Égypte, Al Ahly est en tête à mi-championnat avec 49 points, loin devant Al Mokaoloun, 33 points. En Afrique du Sud, les patrons de la Ligue veulent reprendre le 18 juillet et finir avant le 31 août, mais les arbitres ne seront disponibles qu'à partir du 1er juin. En Algérie, la priorité actuelle est de terminer la Coupe nationale. Sans donner des dates, les responsables du football algérien espèrent que cette compétition puisse reprendre bientôt par les quarts de finale retour. Les footballeurs de la Zambie ont eux repris le chemin des stades dimanche dernier. En Turquie, Fenerbahçe a été condamné à une retenue des revenus issus de ses futures participations aux compétitions européennes de 2 millions d'euros au cours des deux prochaines saisons pour avoir enfreint les règles du fair play financier. L'UEFA a constaté que Fenerbahçe n'a pas satisfait aux conditions imposées le 19 juillet 2019, à savoir un objectif d'équilibre de la période de référence se terminant en 2018. Ici, en MLS, le Sporting Kansas City, vainqueur hier du Real Salt Lake 2-0, s'est qualifié pour les huitièmes de finale du tournoi organisé par la Ligue nord-américaine de football à huis clos à Orlando. Dans le groupe D, ce sont donc trois équipes qui sont assurées de disputer la phase de match à élimination directe, puisque Salt Lake et le Minnesota United FC avaient déjà validé leur ticket avec 4 points glanés.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, vous êtes en compagnie d'Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, de violents affrontements sont signalés depuis le 8 juillet à Pinga, dans le Nord Kivu. Plus de 25 civils ont été tués et plusieurs personnes déplacées. Dans la capitale de la province, Goma, des voix s'élèvent. 23 organisations de la société civile se sont adressées au président Félix Tshisekedi. Le point avec notre correspondant à Goma, Charlie Kasereka.
Destitué de la tête de commandement par ses anciens collaborateurs depuis le 8 juillet, le chef de guerre de Walikale, Choumira Eguidon, a depuis lancé une guerre contre Gilbert Bouira, son remplaçant et son ancien bras droit. Les combats de ce lundi ont fait de nombreux blessés évacués à l'hôpital de Pinga, qui accueille aussi les déplacés. Patrick Mundeke, l'un des notables de Walikale.
L'armée sous-traite la sécurité de la population. Les conséquences sont celles que nous voyons à Pinga. Emoma Guidon opère carrément avec les FARDC pour traquer les FDLR. Et d'autres endroits, il opère seul. Et hier matin, vous avez vu, 25 morts. Et ça pose quand même des problèmes. Je me demande, est-ce qu'il n'y a pas une politique dans ce pays pour pérenniser la guerre à l'est de la République?
Ce lundi, Guidon Choumirai a quitté la cité de Pinga, située à plus de 150 km à l'ouest de Goma, l'abandonnant sans affrontement aux troupes des FARDC qui se sont interposées entre les deux factions en conflit dans cette cité de Pinga, selon les porte-parole des FARDC au Nord Kivu. Des sources locales signalent une vingtaine de morts depuis le début des affrontements. 23 organisations de la société civile appellent l'armée congolaise à déployer des troupes dans cette partie de la province. Étienne Kambale est membre de la société civile Nord Kivu.
Notre mission en tant qu'organisation de la société civile, c'est d'alerter, demandons ce qui suit. Au ministre de la Défense, d'évaluer les moyens mis à la disposition des opérations Sokola 1 et 2, et si ces moyens arrivent à destination. De procéder à l'évaluation des opérations militaires Sokola 1 et 2,
l'autre situation inquiétante, les chefs de guerre qui se sont rendus récemment au FARDC déplorent les conditions dans lesquelles ils vivent. Plus de 90% d'entre eux sont déjà retournés dans leur milieu d'origine. J'étais Mekakoule, général autoproclamé, jadis basé dans les parcs de Virunga, s'exprime ici.
Nous nous sommes rendus à l'écoute de l'appel du chef de l'État. Nous ne voulons plus rentrer en arrière. Nous demandons au chef de l'État de tenir sa promesse parce que nous avons encore la possibilité d'aller sensibiliser les autres combattants qui sont rentrés dans les maquis. Moi, personnellement, je suis venu avec 280 combattants, mais actuellement, il ne me reste que 36.
Le gouverneur Karlin Zanzoukasivita a réuni les notables de Walikale qui sollicitent l'appui de la MONUSCO dans ces conflits. Les groupes armés de Guidon Choumirai Mouissa est basé dans les riches territoires de Walikale. Les opérations militaires de ces groupes armés touchent actuellement trois autres territoires, à savoir les territoires de Lubero et celui de Masisi. L'armée congolaise n'a jamais lancé des opérations militaires contre ces groupes armés, accusés de plusieurs violations des droits de l'homme par l'ONU. Le groupe armé Nduma Defense of Congo s'est dit protecteur de la tribu Nyanga contre la rébellion rwandaise des FDLR. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Au Tchad, le gouvernement a informé les salariés du secteur public que d'ici au 25 juillet, les dispositions du protocole d'accord signé avec les partenaires sociaux vont être appliquées intégralement. Ces points concernent les salaires coupés en 2016 pour faire face à la crise économique. La décision est accueillie de manière mitigée par les syndicats et fonctionnaires de l'État. Des précisions avec André Kotmajingar, notre correspondant à N'Djamena.
Il s'agit de l'augmentation additionnelle de 15% des AGS, augmentation générale spécifique pour les porter à 100%, et celle des primes et indemnités de 20% pour les porter à 85%. Les 15% restants doivent être payés en janvier 2021. Avec ce remboursement, le fonctionnaire tchadien retrouvera son salaire initial coupé en 2016 et non une augmentation de salaire comme beaucoup le pensent, explique le porte-parole de la plateforme syndicale revendicative, Barka Michel.
En fait, notre salaire de 2016 amputé par les AGS et par tout ce que vous connaissez qui est en train d'être rétabli. Mais je précise que ce n'est pas tous les fonctionnaires qui gagnent les indemnités. Donc, notre problème reste entier. Qu'on prenne en compte les avancements et les reclassements. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas totalement satisfaits.
La majorité des fonctionnaires concernés par les coupes des AGS, primes et indemnités, sont du secteur de la santé et de l'éducation nationale. Le président du syndicat des travailleurs sociaux et de la santé, Younous Mahadjir, estime que même avec le remboursement de ces primes et indemnités à 85%, les agents de la santé n'auront pas encore leur salaire initial.
C'est lorsqu'ils auront en 2021 les 15% qui restent. C'est en ce moment seulement qu'ils auront le salaire normal. Mais seulement, nous avions notre salaire, on nous le coupe et on nous le restitue tout en oubliant tout ce qu'on a perdu. Nous allons poser ça au niveau des pactes sociaux pour que ceci soit considéré comme des arriérés qui doivent être très rapidement remboursés aux ayants droit.
En respectant l'esprit du protocole d'accord signé en janvier dernier avec les partenaires sociaux, le gouvernement est conscient de la situation des travailleurs, a déclaré le secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad, Brahim Ben Saïd, un syndicat proche du parti au pouvoir.
Malgré les dépenses sécuritaires, malgré les dépenses sur le coronavirus, le gouvernement est arrivé à pouvoir appliquer l'accord. Et cela prouve que le gouvernement est animé d'une volonté qui peut nous permettre de pouvoir signer même le protocole d'accord qu'on est en train de pouvoir faire ça. Avec tous ces problèmes-là, ce ministre des Finances est arrivé à pouvoir payer à temps. Et cela prouve déjà que le gouvernement est en train de faire savoir à tout le monde ce qui se fait sous l'ombre. C'est la vie des gens.
Les fonctionnaires se disent satisfaits, mais ils recommandent le paiement des frais de transport de 2016 et 2019 et la levée du gel des effets financiers.
Le gouvernement sait que cet argent a été coupé injustement. Aujourd'hui, si on nous ramène, cela montre aussi la bonne volonté du gouvernement.
Depuis 6 ans ou 5 ans, les fonctionnaires n'arrivent pas à être avancés.
Imaginez, depuis 4 ans, nous enseignants, c'est comme si notre carrière qui est mise en jeu. On est là en train de veiller qu'il y ait d'avancement pour nous permettre au moins de préparer notre retraite.
Le syndicat des enseignants du Tchad prend acte du remboursement pour permettre l'organisation des examens et concours de l'année en cours. Mais d'après Ngartoy Deblaise, secrétaire général du CET national, l'année scolaire 2020-2021 sera hypothéquée si les autres points, comme la levée du gel des effets financiers, le paiement des frais de transport et celui des indemnités des commissions administratives paritaires ne sont pas pris en compte. Ces indemnités n'ont pas été payées depuis 4 ans. André Kodumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, Alassane Ouattara sera-t-il candidat à un troisième mandat? Le débat est relancé après la mort du premier ministre Amadougou Koulibaly, qui était choisi pour défendre les couleurs du RHDP à la présidentielle d'octobre. Ceux au sein de son parti qui se prononcent en faveur de sa candidature estiment que cela éviterait une bataille de succession. S'il se présente, il fera face à l'ancien président Henri Konan Bédié. Rendez-vous jeudi 23 juillet à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Au Nigeria, les établissements scolaires et universitaires sont fermés pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le pays compte plus d'écoles privées que publiques. Et depuis 4 mois, des enseignants du privé ne sont pas payés et ne survivent que grâce à de petits boulots. Reportage de notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
L'incertitude demeure sur une date réelle pour la réouverture des classes au Nigeria. Beaucoup d'enseignants des nombreuses écoles privées du pays ne savent plus où donner la tête. Ils ne travaillent pas et les salaires sont impayés depuis le mois de mars. Jerimaya Ewerere enseigne dans un lycée privé de la capitale, Abuja.
Au début, tout était vraiment confus. Je ne savais pas quoi faire, mais j'étais obligé de garder courage. J'ai organisé des cours de révision à la maison pour les enfants. En plus, je suis aussi blanchisseur, mais le problème présentement, je n'ai pas de blanchisserie. Donc quand les gens m'appellent, je me rends chez eux pour le repassage et je fais le linge.
Les enseignants des écoles privées se sentent abandonnés à leur sort. Ils se plaignent de ne recevoir aucune aide des autorités fédérales et des États de la Fédération. Beaucoup d'entre eux se tournent vers d'autres activités pour survivre. Nike Atanda et Gift Adjidji sont enseignantes dans une école privée à la banlieue d'Abuja.
Depuis le début du confinement, nous n'avons pas reçu nos salaires, rien du tout. Nous vivons par la grâce de Dieu. Je vends les masques faciaux présentement et c'est ce qui m'aide. Vous imaginez une enseignante qui vend maintenant des masques faciaux? D'autres vendent du maïs grillé. Ce n'est pas facile. Seul Dieu nous aide.
Ce n'est pas du tout facile, mais Dieu nous assiste. Nous, qui sommes des enseignantes des écoles privées, nous devons trouver autre chose à faire. Actuellement, je fais des gâteaux et je fais du ravitaillement de frites pour survivre.
Le paiement de salaire est un énorme défi pour les propriétaires d'écoles privées, avec la fermeture continue des écoles qui sont leur principale source de revenus. Le complexe scolaire privé Total Cha Model School est fermé depuis 4 mois. Pour Uwebo Loke Johnson, fondateur de ce complexe, la situation est vraiment difficile.
La situation est grave. Je prends l'exemple sur moi-même. J'ai payé le mois de mars et depuis je n'ai pas pu m'en sortir. Parfois je les appelle pour quelques produits alimentaires, mais cela est insuffisant. Dans mon établissement, j'ai un staff de 60 enseignants. Honnêtement, les choses sont très dures pour
eux. Des négociations sont en cours pour la réouverture des écoles. Le ministère de l'Éducation nationale avait annoncé une reprise probable des cours pour les élèves des classes d'examen début juillet. Mais l'augmentation du nombre d'infections au Covid-19 a obligé le gouvernement fédéral à revenir sur sa décision. Le Nigeria a recensé plus de 37 000 cas confirmés avec 805 décès et un peu plus de 15 000 guéris. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Alors que les cas de Covid-19 ne cessent d'augmenter ici aux États-Unis, le président Donald Trump a repris mardi ses points de presse quotidiens sur la pandémie de coronavirus. Il a exprimé son soutien au port du masque facial. Reportage de Patsy Vida Kuswara, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, repris ici par Lionel Gahima.
Selon les dernières recherches de Pew Research, un think tank basé à Philadelphie, 65% des adultes américains disent porter un masque dans les magasins ou espaces publics. Après des mois à minimiser l'importance de masques faciaux, le président Donald Trump a finalement tweeté une photo de lui-même portant un masque Lapland patriotique. Monsieur Trump a repris ce mardi le point de presse sur le coronavirus à la Maison Blanche et pour la première fois, a affiché son soutien le plus ferme au port du masque.
J'ai le masque ici, je le porte et je vais l'utiliser avec plaisir, pas de problème. Et je l'ai dit. Et je dis, si vous pouvez utiliser le masque, lorsque vous pouvez l'utiliser, si vous êtes proche l'un de l'autre, si vous êtes dans un groupe, je le mettrai quand je suis en groupe.
En avril, le Centre de contrôle et de prévention des maladies a déclaré que tous les Américains, pas seulement les agents de santé, devait porter des masques. Mais le président a résisté et n'a pas mis de masque jusqu'au début de ce mois. Il a également évité de rendre le port de masque obligatoire, disant qu'il voulait que les gens aient la liberté. Un récent sondage ABC News Washington Post montre que 64% des Américains désapprouvent sa gestion de la pandémie. Norman Einstein est chercheur à l'American Enterprise Institute.
Cela lui crée encore plus de problèmes alors que la pandémie explose, jusque dans les régions où les gouverneurs républicains avaient suivi ses repères pour ouvrir et maintenant, il commence à avoir des problèmes terribles avec la pandémie et cela rend son travail beaucoup plus difficile.
Les États-Unis sont à plus de 140 000 morts et plus de 3,8 millions de cas avec les nouvelles données de CDC suggérant que le nombre réel pourrait être 10 fois plus élevé. L'administration affirme que le nombre de cas a augmenté avec la multiplication des tests, mais les experts ne sont pas de cet avis. Pour William Schaffner, épidémiologiste au Centre médical de l'Université Vanderbilt, c'est le manque de politique nationale qui a conduit au chaos.
Les pays qui ont bien réussi ont une politique nationale claire qui place les gens de la santé publique au premier plan. Les dirigeants politiques ont aidé les responsables de la santé et ont transmis des messages clairs et cohérents à la population. La population comprend ce qu'est le programme et s'engage à coopérer. C'est la formule du succès. Mais en laissant cela au gouverneur, c'est la formule pour le chaos.
That's a formula for chaos. Malgré l'augmentation des cas, les Américains affluent vers les lieux des vacances d'été et différents États ont des règles différentes, de la Floride à la Californie.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.